France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. L'engagement selon Malraux. Chapitre 4. L'énigme de la guerre. Lors du précédent épisode, nous avons quitté Malraux au sommet de son engagement. Dès les premiers jours de la guerre d'Espagne, il s'est en effet démené pour mettre sur pied une escadrille et a donné de sa personne dans l'espoir d'éviter la victoire de Franco et des valeurs qu'il représente, c'est-à-dire l'autoritarisme, l'arbitraire et le retour à une morale traditionnaliste. Pourtant, dans les années qui suivent, son rapport à l'engagement va prendre une tournure déroutante. On aurait pu en effet s'attendre à ce qu'il se lance très tôt dans la résistance. D'autres l'ont fait, comme Clara, sa femme, mais dont il s'est séparé de fait, qui, elle, n'attend pas pour s'engager. Elle fait du renseignement, du soutien logistique, de l'aide aux réfugiés et aux juifs persécutés. Elle sera même arrêtée par la Gestapo, puis finalement relâchée, faute de preuves de son implication. André, lui, fait tout autre chose. Il passe les trois premières années de l'occupation à réfléchir sur l'art et à écrire des livres. C'est là qu'il commence à concevoir son idée de musée imaginaire, cette façon plus libre de faire de l'histoire de l'art. Durant ces années, il écrit notamment « Psychologie de l'art » au soleil, dans une villa de Roquebrune-Cap-Martin. Alors qu'a-t-il bien pu se passer ? Malraux a-t-il été traumatisé par la guerre d'Espagne ? Juge-t-il qu'il a assez donné et qu'il a maintenant fait sa part ? Pas vraiment. Il y a des raisons véritables à cet engagement tardif dans la résistance. Mais pour les saisir, il nous faut d'abord revenir un petit peu en arrière, juste avant l'invasion allemande. En mars 1939, avant l'occupation donc, Malraux est loin d'être désengagé. Il s'enrôle même dans l'armée française pour combattre la Wehrmacht. C'est une démarche volontaire à laquelle il n'est pas contraint, étant donné son âge, 38 ans, et aussi parce qu'il a déjà été réformé par le passé. On peut donc dire que Malraux se lance une nouvelle fois dans la lutte contre le fascisme. Le 15 juin 1939, il est blessé au combat au sein de sa division de chars blindés. Le 16, il est fait prisonnier et interné dans un camp à Provins. D'abord enfermé avec d'autres dans un entrepôt, sans rien à faire, dans la chaleur et la faim, il parvient, après quelques semaines, à être affecté au travail des champs. Et cette position lui donne davantage d'occasions de s'enfuir, ce qu'il parvient finalement à faire. En tout, ce sont 5 mois qu'il aura passé dans ce camp, pas vraiment la vie d'un planqué. Il est donc faux de dire que Malraux s'est désintéressé du combat antifasciste après la guerre d'Espagne. En revanche, oui, il va s'écouler environ 3 années après son évasion du camp, durant lesquelles il se met en retrait de l'engagement entre 1940 et 1943. Comment comprendre ce paradoxe ? Pourquoi se retirer au moment même où son pays semble avoir le plus besoin de toutes les forces disponibles ? Les archives proposent une première réponse avec ce document de 1988. Il s'agit d'un extrait d'interview avec l'écrivain et journaliste Roger Stéphane, un résistant de la première heure.
Avant d'entrer dans cette histoire qu'on a appelée la résistance, je suis allé voir Malraux et je lui ai dit je voudrais faire ça probablement. Ce serait formidable si vous veniez. En tout cas, moi, je disparais demain. Quand j'ai dit demain, c'était demain. Et Malraux m'a répondu, si ça vous amuse de jouer au petit soldat. Bon, quand moi je dis ça, j'ai 20 ans, 21 ans. Malraux a beaucoup plus que moi. Il a 40 ans. Je crois qu'il était plus urgent pour nous tous, que Malraux continuait d'écrire. Malraux nous avait tous précédés dans la lutte antifasciste, dans la résistance. Parce que ce qu'ont fait les Espagnols en 1936-1938 n'est autre que de la résistance. Alors, je ne vais pas m'amuser à pinailler pour savoir s'il est entré dans la résistance en 1943 ou en 1944. Ce que j'atteste, c'est que pour lui, bien entendu, les Allemands étaient l'ennemi, et bien entendu, Vichy était grotesque. Bon, alors est-ce qu'il fallait que lui joue au petit soldat plus tôt ? Il ne le pensait pas, et quelques 40 ans après, je pense qu'il avait probablement raison.
Perrine Simon-Nahum, vous êtes directrice de recherche au CNRS, historienne attachée au département de philosophie de l'École normale supérieure. Comment expliquez-vous que Malraux se plonge dans l'histoire de l'art au moment même où son pays s'effondre et où les nazis occupent le territoire? On a envie de dire ça ne lui ressemble pas.
Alors, il ne se plonge pas d'emblée dans l'histoire de l'art. Ce qui est très intéressant, et vous l'avez rappelé au début de cette émission, ce sont effectivement les 5 mois qu'il passe comme prisonnier dans l'est de la France. Malraux, qui est le prototype même de l'écrivain engagé, évidemment, on s'attendrait à ce que il entre d'emblée dans la résistance. En fait, Malraux va faire un retour sur lui-même. Il va avoir besoin, en quelque sorte, de ce temps pour se repenser lui-même et savoir finalement quel sens il doit donner à son action. Et effectivement, il commence à écrire sa psychologie de l'art, qui paraîtra en 1947. Il rédige aussi La lutte avec l'ange, qui sera publiée en 1943 à Lausanne. En fait, Malraux ne peut s'engager que s'il se reconstruit. Or, il y a eu cette rupture avec la guerre d'Espagne.
Parce qu'il est détruit par la guerre d'Espagne ?
Ce qu'il a découvert dans la guerre d'Espagne, c'est le comportement des communistes. Il a pris fait et cause pour les anarchistes et rompu avec le parti communiste. Ce qu'il célèbre, ce n'est pas la révolution, c'est la fraternité. Et donc, il va falloir qu'il refasse tout un chemin pour s'engager à nouveau à travers une action qui ait un sens pour lui. Alors l'autre chose, Roger Stéphane le dit assez bien d'ailleurs, c'est l'extraordinaire sens stratégique de Malraux. Malraux a prévu l'engagement des Américains, il a prévu la victoire des Américains, il a prévu des choses beaucoup plus précises d'ailleurs aussi d'un point de vue militaire et stratégique. Par exemple, il décrit très bien comment les bazookas vont rentrer en action, ce que ça change dans la guerre.
Donc il se dit, pour l'instant, c'est pas la peine que j'y aille, de toute façon je vais me faire tuer pour rien, il faudra intervenir plus tard dans la guerre.
Je le dirais de façon plus positive, à savoir que l'engagement ne peut véritablement se concrétiser que quand il revêt un sens pour l'individu. Il faut aussi se souvenir que ce sont les 3 années de vie personnelle un peu heureuse de Malraux avec sa compagne Josette Clotis qui lui donne 2 fils.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'est donné aussi ces années-là pour lui et pour eux, que peut-être elle le lui demandait et que ça fait partie, voilà, sa vie personnelle du fait qu'il est resté en retrait pendant ces 3 années?
Non, mais je ne crois pas. Je crois que Malraux a toujours été mu par le sens aigu de ce qu'il devait faire et que à ce moment-là, ça passe effectivement par une réflexion métaphysique, par une réflexion sur l'art.
Peut-être aussi cette idée que ce qu'il faut sauver de toute façon, c'est l'art, et que si on fait la guerre, c'est parce que la civilisation à laquelle il croit et l'art auquel il croit doit être défendu contre le nazisme, et que donc au fond, ça a du sens de s'intéresser à l'art et à l'histoire de l'art, y compris en pleine guerre, puisque c'est ça le but ultime.
Ça a en tout cas du sens de s'intéresser aux raisons qu'aurait l'humanité de survivre.
Une courte parenthèse ici. Il y a également un autre mystère concernant le rapport de Malraux avec la résistance. Lui qui a été par la suite un grand admirateur de De Gaulle et son ministre des Affaires culturelles, pourquoi n'a-t-il pas pris les armes aux côtés du général en se rendant à Londres? Nous répondrons à cette question dans le dernier épisode consacré aux relations entre De Gaulle et Malraux. La résistance, c'est donc Clara qui l'a rejoint d'abord. Mais pour bien se rendre compte de ce que cet engagement de Clara a pu signifier, je vous propose de l'écouter dans cette archive du 23 février 1973.
C'est à Toulouse que j'étais contactée par le neveu d'André Gide, Michel Caillot, qui venait d'un camp de prisonniers où un de mes amis lui avait donné mon adresse. Lui-même m'a écrit en me fixant un rendez-vous place Bellecour à Lyon. Lyon était la ville la plus dangereuse de France. À cette époque, la place Bellecour était la place la plus dangereuse de France et je n'avais pas un sou. Il m'a dit, qu'il souhaitait faire un mouvement de résistance et que cet ami commun que nous avions lui avait conseillé de s'adresser à moi parce que j'avais des relations qui peut-être pourraient être intéressantes pour lui puisque j'avais travaillé avec la gauche française, avec les socialistes un moment avec les communistes. Je dois dire que ni André ni moi, nous avions énormément d'esprit de suite, justement. Enfin, c'était la gauche.
Ils ont d'esprit de parti.
D'esprit de parti, c'est cela, c'est beaucoup plus juste. À la fin, le mouvement a connu, comme tous les mouvements, de grosses difficultés. J'ai dû quitter en hâte ma maison avec mon enfant. Et pendant 6 semaines, nous n'avons pas dormi plus de 2 nuits de suite dans le même endroit. Nous étions recherchés.
Et vous étiez sans nouvelles d'André Malraux à cette époque, alors ?
Jusque-là, nous avions eu des nouvelles. Il est évident que quand je courais les Grands Routes, je n'en avais plus. Pas d'argent non plus, d'ailleurs.
Périne Simon-Nahum, que dire de ce contraste, de nouveau assez saisissant, entre les grandes difficultés auxquelles Clara Malraux est confrontée dans le quotidien de la résistance et le relatif, voire total, retrait d'André Malraux à Roquebrune ?
Eh bien, d'abord une différence de caractère, sûrement entre deux. Ensuite, une différence biographique qui, à l'époque, comptait. Clara Malraux s'appelait Clara Goldschmidt, elle était juive. Donc, elle se trouve d'emblée, je dirais, prise à partie par l'occupation et elle doit, à ce moment-là, lutter pour sauver sa vie et celle de Florence Malraux, qui est née en 1933.
Et précisément, on imagine qu'André Malraux était concerné par l'avenir de sa femme et de sa fille.
Oui, si ce n'est que, si vous voulez, les relations entre la zone occupée et la zone sud, à l'époque, ne se faisaient pas facilement. Donc, je crois qu'elle a dû avoir, et elle le rappelle elle-même, des moments de grande solitude. Cela dit, encore une fois, Malraux n'est pas resté à l'écart de la résistance. Il a été contacté à plusieurs reprises. Il a été contacté, Roger Stéphane le rappelait, par Roger Stéphane lui-même.
Et en 41, il a été contacté par Sartre et Beauvoir qui viennent lui demander, au fond, pourquoi ne pas nous rejoindre. Et là, il refuse de rejoindre les réseaux de résistance.
Oui, alors, sans faire de mauvais esprit, on peut penser qu'il ne les avait pas trouvés tout à fait sérieux et peut-être n'avait-il pas eu tout à fait tort, je ne sais pas.
Alors, il faut dire aussi que si Malraux est retourné pendant ce moment-là à la littérature, il n'en reste pas moins très hostile à la collaboration. Il va refuser de participer à la NRF collaborationniste, et cela malgré, au fond, l'amitié qu'il avait pour son directeur Drieux. Donc, on peut dire qu'il y voit clair, au fond, dans ce qui se passe. Il ne se laisse pas totalement aveugler, par exemple, par ses amitiés passées.
Non, mais je veux dire, la résistance de Malraux ne fait aucun doute, contrairement à la résistance de Sartre ou d'autres. Et d'ailleurs, Malraux aura des mots très durs pour Sartre au début des années 60. Voilà, si ce n'est que cette résistance, mais qui sommes-nous pour le condamner ? En tout cas, on peut juste en faire la remarque, arrive, comme certains l'ont dit, un peu tard.
Malraux va finalement se réengager dans la lutte, mais quelques mois seulement avant le débarquement des Alliés en Normandie. Ce retard lui vaudra beaucoup de soupçons d'opportunisme. Pourtant, il ne faut pas regarder le passé avec la connaissance que nous avons du présent. Nous ne devons pas oublier qu'avant le débarquement, rien n'assurait qu'il aurait lieu, ni à quel moment. Avec le recul, la fin relativement rapide de la guerre peut sembler évidente, mais ce n'était pas du tout le cas à l'époque, et rien n'empêchait Malraux de rester indéfiniment chez lui à rédiger des essais sur l'art. Ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe finalement cette entrée dans la résistance de Malraux ? Qui le contacte ? Comment est-ce que ça se fait ?
Alors, elle se passe dans la continuité finalement de la guerre d'Espagne, parce que celui qui va convaincre apparemment Malraux, enfin on ne sait pas, hein, mais d'entrer dans la résistance, c'est un ancien de la guerre d'Espagne, Antoine Diener, qui le convainc de rejoindre la brigade Alsace-Lorraine, repliée à l'époque en Dordogne. Et on cherche à ce moment-là, dans le milieu de la résistance intérieure, quelqu'un pour fédérer les maquis de Dordogne, et on pense à un nom important, un nom qui a un certain écho, et le nom nom de Malraux est évoqué pour la première fois le 15 avril 1944. Et le 20 juillet, donc le 19 juillet, pardon, il va créer cette mission interrégionale FFI des maquis de Dordogne.
C'est une création un petit peu comme l'escadrille Espagna. Il refait un petit peu la même chose.
Absolument. Mais il est arrêté très vite. Il est libéré le 19 août et il rencontre le général de Gaulle le 8 septembre. Et à ce moment-là, le 9, donc, il est nommé à la tête de cette brigade Alsace-Lorraine qui a trois courants, Metz, Strasbourg et Mulhouse, trois bataillons. Et puis, Malraux va mener une guerre, les armes à la main. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a un courage physique exemplaire.
Le 12 novembre 1944, Josette Clotis, la compagne d'André Malraux, se rend avec sa mère à la gare de Saint-Chamond. En montant dans le train, elle glisse du marchepied, ses jambes sont déchiquetées. Transportée à l'hôpital de Tulle, elle meurt quelques jours plus tard. Est-ce que vous pensez, Perrine Simon-Nahum, que cet événement tragique, dramatique, a pu être l'une des choses qui a accéléré, au fond, l'entrée de Malraux dans la résistance, comme une sorte de dérivation à la tragédie qui l'avait touché?
Oui, on l'a vu, il n'a sûrement pas été le déclencheur, puisque Malraux est déjà dans la résistance active à ce moment-là. Mais il est évident que la mort qui a ponctué finalement son existence et qui l'a fait de façon très précoce revient comme un mauvais sortilège et qu'il va chercher finalement à même pas à exorciser, mais on pourrait dire d'une certaine façon, il va se jeter dans l'aventure militaire, j'imagine, en cherchant lui-même peut-être à perdre la vie, en tout cas au péril de sa vie.
Avec d'autres résistants, Malraux forme la brigade Alsace-Lorraine, dans le sud-ouest de la France, plus précisément du côté de Brive-la-Gaillarde. Le nom de cette brigade, Alsace-Lorraine donc, fait référence au département français annexé par les nazis. Mais il se trouve que c'est aussi dans ces régions de l'est de la France qu'elle va s'impliquer à la fin de la guerre, comme le raconte Malraux dans cette archive du 4 janvier 1970.
Lorsque commença la dernière offensive allemande, la 2e division blindée était repartie vers le nord et le général Schwarz en Strasbourg ne disposait plus que de quelques hommes. Que le repli allié eût lieu ou non, il ne pouvait être question que la France abandonnât Strasbourg. Et la brigade Alsace-Lorraine y fut envoyée pour que la France y restât jusqu'au dernier jour, par ses vivants ou par ses morts. Enfants d'Alsace, tièdes à l'écoute, pendant que dehors souffle le vent d'hiver qui soufflait alors, et à qui un oncle ou un père a dit qu'il était avec vous, souvenez-vous que par une nuit semblable, qui fut la nuit du témoignage, l'oncle ou le père attendait les blindés allemands, armé d'une mitrailleuse allemande prise aux chars qui brûlèrent au radour, en regardant dans l'ombre un copain de Corrèze ou de Paris qui ne l'avait pas abandonné, simplement et gravement, comme l'Alsace regarde la France.
Perrine Simon-Nahum, quelle est l'action concrète de Malraux dans la résistance sous le nom du colonel Berger?
Le colonel Berger est à la tête donc de cette brigade Alsace-Lorraine qui va prendre Altkirch, qui va le 28 novembre 44 prendre Danemarie. Il raconte très bien comment la brigade Alsace-Lorraine donc va se substituer pour la prise de Strasbourg à la 2e DB du général Leclerc. Fin janvier, c'est Colmar qui est prise. France et finalement à la tête de ces hommes. Alors on a cette célèbre photo Malraux avec dans sa canadienne avec la cigarette à la bouche, bon, qui est une photo très romantique hein, finalement de la guerre. Cette brigade d'Alsace-Lorraine va aller jusqu'à Stuttgart où elle sera le 16 mars 45 et où elle se dissout, elle se sépare à ce moment-là.
Donc il faut l'imaginer comme un combattant.
Il faut vraiment l'imaginer comme un combattant. Alors, sans doute avec le désespoir dû à la disparition de Josette Clotis, plus que l'exaltation de la victoire, mais aussi avec le sens de cette fraternité qu'on peut trouver dans une brigade aussi prestigieuse qui sait que la vie des hommes qui est en jeu porte l'honneur de la France.
C'est prestigieux aussi parce que il y a un nom célèbre à la tête de cette brigade, et ce nom, c'est celui de Malraux, et son engagement, c'est aussi de mettre son nom, en même temps que sa personne, évidemment, car c'est un danger qu'il court chaque jour, dans la balance.
Ce qu'il incarne, je pense, dans ce combat, c'est aussi la grandeur d'une idée qui passe au-delà même des luttes politiques.
Donc vous pensez que son nom et sa personne ont réussi à fédérer au fond et que ça c'est une arme?
Oui, sinon il n'aurait pas été choisi. On sait quand même comment les choses ont été faites et il n'aurait pas été choisi pour fédérer les maquis de Dordogne. C'est à ce moment-là que la célébrité, qui est déjà celle de Malraux, joue son rôle.
Après la guerre, le 17 novembre 1945, André Malraux est fait compagnon de la Libération. Il est également distingué par les Anglais, et ces distinctions feront beaucoup pour son prestige. Mais jusqu'à sa disparition, il restera hanté par les morts de ces années-là, et y fera souvent référence.
Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.
On pense évidemment au discours de panthéonisation de Moulin dont nous avons parlé lors du premier épisode. Mais de façon plus discrète, on se rend compte de la persistance de cette blessure en écoutant les archives. Car ce thème est toujours présent, partout, en filigrane, comme ici en 1958, au cours d'une conférence de presse sur un tout autre sujet, mais que Malraux ouvre avec une référence subliminale à ceux qui ont défendu la France.
Mesdames et messieurs, beaucoup d'entre vous sont avec moi de vieilles connaissances et à travers le sourire ironique de Harold King, je vois tous ceux qui, à travers tant de gouvernements et parfois quelques désastres, depuis 18 ans, ont défendu la France. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, pour cela, mesdames et messieurs, au nom de la France, je vous remercie.
Périne Simon-Nahum, on se rend compte en écoutant les archives que Malraux utilise constamment le vocabulaire de la résistance et de la défense de la France dans ses interventions, comme s'il n'était jamais sorti, au fond, mentalement de cette période.
Il n'en est jamais sorti mentalement, je ne sais pas, mais en tout cas politiquement. Et on sait que il a pesé beaucoup dans la mise en place de la dramaturgie gaulliste, de la dramaturgie installée par le gaullisme après-guerre. Et Malraux n'aura de cesse, bon, vous savez, il a été un temps donc conseiller technique à la culture, puis ministre de l'information du général de Gaulle. Et il n'aura de cesse, une fois que de Gaulle aura quitté le pouvoir le 20 janvier 46, pendant toute la traversée du désert, à appeler à une nouvelle résistance.
Donc vous diriez que Malraux vit politiquement de nombreuses années sur le fait qu'il a été résistant et que c'est pour ça que, bien souvent, il réactive aussi ce mythe, qui n'est pas qu'un mythe, hein, de la résistance.
Sa résistance à lui n'est pas un mythe. La manière dont il va la transfigurer dans l'accompagnement du gaullisme, là, devient un mythe. Mais je crois que c'est sa représentation des choses. Il n'y a pas un usage personnel ou politique. Je crois que c'est quelqu'un qui se représente le monde dans lequel il vit à travers ce prisme. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'il a en partage avec le général de Gaulle.
On en revient toujours à cette même question des motivations de Malraux en ce qui concerne son engagement, que ce soit dans la résistance comme, plutôt dans sa vie, en faveur du communisme. Où trouver la cohérence profonde entre ces différentes prises de position? Cette question lui a été souvent posée.
Assez souvent, lorsqu'on aborde les sujets Malraux et la politique, et même lorsqu'on parle de Malraux écrivain, on a tendance, particulièrement parmi vos adversaires, à opposer Malraux des années 30 et 40 à Malraux des années 50 et 60. Mais ne s'agit-il pas, au fond, d'une seule et même fidélité que j'appellerais fidélité à son propre destin?
Quand j'avais 20 ans, j'avais épousé le prolétariat. Ce qui était d'autant plus naturel que l'internationalisme était encore à l'époque extrêmement puissant. Assez vite, il est devenu évident que le prolétariat disparaissait de la Russie, que ce qui avait été la grande idée du XIXe siècle ne serait pas la grande idée du XXe siècle, et que c'était évidemment Nietzsche qui avait gagné contre Marx quand il avait dit « le XXe siècle sera le siècle des guerres nationales ». Notre siècle a été celui des guerres nationales, et il se trouve que dans la résistance, j'ai épousé la France. Je ne crois pas que mon cas soit particulier, je crois qu'il est à peu près général dans tout ce qu'on appelle les gaullistes de gauche. Nous avons eu un lien avec une collectivité déterminée qui était le prolétariat. Nous avons eu ensuite le même mariage avec une autre collectivité qui s'appelle la France. Et pour moi, il n'y a aucune espèce de différence, ni de rupture. Mais quand je dis de rupture, je voudrais aller plus loin. Il n'y a surtout pas de différence de comportement. Enfin, le lien profond est le même.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette archive, selon vous, Perrine Simon-Nahum?
Je crois qu'il faut comprendre que nous sommes très éloignés de la conception de la politique que nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que, d'une certaine façon, Malraux peut nous sembler appartenir à une autre époque.
Pourquoi?
Parce que ce qu'il invoque, ce sont encore une fois ses forces profondes, c'est-à-dire que pour Malraux, la politique n'est pas une fin en soi. Il se place toujours, on le voit, il le dit lui-même d'ailleurs, le prolétariat, la France, au niveau des grands acteurs collectifs qui étaient ceux de son époque, il y en aurait peut-être d'autres aujourd'hui, il se place toujours à un niveau d'interprétation méta-historique. Alors il se trouve que dans son cas, ce niveau d'interprétation méta-historique rejoint son parcours individuel ou du moins l'image qu'il en a donnée dans son œuvre. Ce qui est finalement assez exceptionnel et ce qui explique qu'il demeure comme l'une des grandes figures du XXe siècle.
La guerre terminée, Malraux s'éloigne de l'idéologie communiste. Plus que jamais, il lui semble que c'est la culture qui doit occuper la première place dans sa vie. Mais l'art et l'engagement peuvent parfois se rejoindre dans une seule et même fonction, celle du ministre des Affaires culturelles qu'il va bientôt devenir. Peut-on considérer que Malraux a été un ministre engagé pour la culture et qui a changé le visage culturel de notre pays? C'est ce que nous allons nous demander au cours de l'épisode suivant.
Mallarmé disait « J'aime beaucoup savoir ce que dit mon chat quand il ne sait pas que je l'écoute. » Et alors, cette nuit, il parlait avec d'autres chats dans la gouttière. J'écoutais et je voulais savoir ce qu'il disait. Alors j'ai écouté très attentivement et il disait « Je feins d'être chat chez Mallarmé. »
Mais ministre, Malraux ministre, c'est un...
J'étais pas ministre, j'étais ministre du général de Gaulle.
Voilà,
je le suis devenu avec lui, j'ai quitté deux fois le ministère en même temps que lui.
L'engagement selon Malraux, une série en 6 chapitres de Salle des Archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisation Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner, prise de son d'Aliya, mixage Alexandre Dang, documentation Ina, Delphine André.